6h, 8h,
Week-end première,
Charlotte de Cocker.
À 7h21, c'est la chronique science de Pasquale Nardone. Alors Pasquale, aujourd'hui avec vous, on parle de taille et de poids.
Oui, effectivement, parce qu'il y a une publication qui vient de sortir dans le Lancet, une revue britannique de médecine, ce 7 novembre, sur une étude absolument gigantesque. On a étudié depuis 1985 jusqu'à 2019, 200 pays différents, 2180 études, dans lesquelles on a traité à peu près 65 millions de personnes âgées de 5 ans à 19 ans. Et on a mesuré leur taille, leur hauteur, et leur fameux BMI, ou indice de masse corporelle.
L'indice
de masse corporelle a été inventé par Adolf Kettler, un Belge, au 19e siècle, mathématicien, astronome. C'est lui qui a fondé l'Observatoire Royal de Belgique, qui se trouve à Uccle. Et il s'intéressait, en tant que mathématicien et statisticien, à ce qu'on appelle la démographie, l'étude de la population. Et donc cet indice, qui est le rapport de la masse divisé par la taille au carré, donne une indication si vous êtes, oui ou non, en bonne santé, entre guillemets. Parce que bien sûr, il y a des variantes. Et donc cet indice de masse corporelle, parfois appelé indice de Kettler, lorsque vous êtes entre 18 et 25, eh bien vous êtes considéré comme normal. Entre 25 et 30, on estime que vous êtes en surpoids. Et au-delà de 30, vous êtes obèse. Et en dessous de 16, vous êtes anorexique en termes de, distribution statistique. Par exemple, pour vous, Charlotte, j'ai fait le calcul. Premièrement, vous mesurez 13 cm de plus que la moyenne des femmes belges. Félicitations.
Merci.
Et votre indice de masse corporelle est de 22, c'est-à-dire tout à fait dans la moyenne d'une femme tout à fait normale.
Ah, vous êtes tout à fait élégant de ne pas citer mon poids. Merci à vous.
Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est étudier l'évolution dans le temps de l'indice de masse corporelle et de la taille des différentes populations. Parce qu'effectivement, on va de populations extrêmement grandes comme les Hollandais, Monténégro, Estonie, où vous avez une moyenne de taille chez les hommes d'1,83 m. Même chose chez les femmes, les Hollandais sont les plus grandes avec 1,69 m de taille moyenne, suivies par le Monténégro, mais aussi les Danoises et les Islandaises.
Alors là, vous citez les adultes ou bien...
Non, les enfants jusqu'à 19 ans, okay. Donc la taille à 19 ans. L'idée étant d'étudier qu'est-ce qui se passe dans l'évolution de cette taille et de cet indice de masse corporelle. Parce qu'on sait que les enfants jusqu'à 5 ans présentent tous à peu près les mêmes caractéristiques. Et c'est après que les choses changent. Par exemple, dans cette étude, ils montrent quelque chose d'intéressant pour la Belgique. Ils citent nommément la Belgique. C'est que les filles suivent la trajectoire des Hollandaises, donc des pays voisins, mais qu'à un moment donné, et ça se stabilise jusqu'à 19 ans, elles perdent à peu près 5 cm de taille. Et la question est de savoir comment se fait-il que la taille, tout à coup, chez les jeunes filles qui rentrent à l'école, arrête de grandir en quelque sorte.
Et ça, est-ce que ça peut être génétique ? Non, c'est un peu, on est tous
mélangés quand même. C'est ça la grande difficulté, parce que le génétique, vous savez, les êtres humains ont 99,9% d'ADN identique. Or pourtant, nous sommes tous différents au niveau génétique. Donc il y a clairement une part génétique qui influence la taille, mais probablement aussi une part du type nutrition et qualité de vie. Et donc ils comparent comme ça les pays pour voir si vous êtes cohérent, à savoir par exemple si vous êtes en moyenne plus petit que les Hollandais ou que les Belges, et est-ce que cette moyenne reste stable ou au contraire ça évolue.
Est-ce que ça voudrait dire donc que nous les Belges, on mange un peu moins bien que les Hollandais?
En tout cas les filles, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'influence alimentaire va peut-être avoir un impact sur la taille des jeunes filles, mais pourquoi la taille des jeunes filles se stagnent et baissent, c'est-à-dire qu'on ne rétrécit pas, mais qu'on perd 5 cm, alors que ce n'est pas le cas des garçons. Même chose, par exemple, en Italie, en France, leur indice de masse corporelle s'améliore. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a là clairement une politique nutritionnelle qui fait que les Français et les Italiens, chez les garçons, eh bien, baissent en quelque sorte leur indice de masse corporelle, ce qui signifie, du point de vue, je dirais, médical, que leur santé s'améliore.
Ça veut dire, par exemple, quand on améliore les cantines scolaires, ça peut forcément beaucoup
changer, en fait. Par exemple, parce qu'il cite aussi l'influence du sport à l'école. Il est clair que chez nos amis hollandais, il y a beaucoup plus de sport à l'école que dans les pays autour. Et donc effectivement, leur premier point, c'est d'abord avoir les données statistiques. C'est pour ça qu'avoir des données sur près de 65 millions de personnes, c'est vraiment important, et d'avoir ces données sur à peu près une trentaine d'années d'études, de telle façon à pouvoir après se poser des questions scientifiques sur comment se fait-il qu'il y a telle évolution et telle évolution. On ne va pas évidemment être étonné que les plus obèses se trouvent chez les Américains, donc aux USA, mais aussi au Chili par exemple, et qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes en termes d'indice de masse corporelle.
Chez et les donc hommes ça, et les par femmes, exemple, ça peut permettre aussi de mesurer si, peut-être vous avez la réponse, d'ailleurs l'obésité dans ces pays-là, elle est plutôt en accroissement ou en déclin.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on montre effectivement que l'obésité augmente dans ces pays de façon systématique et qu'il ne faut jamais oublier que ça tue à peu près 40 millions de personnes par an. Parce que c'est l'institut qui a publié ça, le professeur responsable s'appelle Majid Ezati et il appartient à la School of Public Health de l'Imperial College à Londres, et qu'il travaille dans un institut qui s'intéresse aux maladies de type chronique, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladies respiratoires. Donc pas les maladies infectieuses, hein, et ni les maladies transmissibles comme ce qu'on vit actuellement avec le Covid. Et en moyenne, on sait que ça tue à peu près 40 millions de personnes par an, 75% de tous les décès. Donc l'étude de ces indices qui sont, eux, objectivables, l'indice de masse corporelle, est un chiffre qu'on ne peut pas réfuter, et la taille moyenne est un chiffre qu'on ne peut pas réfuter. Et donc ces deux objets-là vont servir d'études prospectives pour, entre différents pays pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de nutrition, d'activité à l'école et peut-être d'aspect génétique, bien entendu.
Donc c'est une espèce de baromètre. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer à le suivre? Du coup, cette étude se poursuit et on va pouvoir...
Oui, effectivement, j'ai repéré, il y a à peu près 17 scientifiques belges qui travaillent dans cette étude-là aussi. On va continuer à étudier cela. Parce que, par exemple, pour revenir sur ce qu'on appelle l'ADN, donc l'aspect génétique, ils ont montré, par exemple, que les enfants d'immigrants qui n'ont pas évidemment le même patrimoine génétique que les Hollandais de base, par exemple, eh bien, rattrapent en termes de taille et d'indice de masse corporelle les Hollandais classiques. Donc on voit que l'ADN ne suffit pas.
Le facteur sociétal est quand même hyper important, extrêmement important. La façon dont on mange, etc. Et ben, merci beaucoup, Pasquale Nardone.
Je vous en prie.
De nous avoir ouvert les yeux sur l'impact aussi de notre mode de vie, sur notre taille, notre poids.